Le faiseur de monde présente Le nouveau cycle de Yom. Deuxième livre, Le crépuscule de Los Angeles. Épisode 8.
Nous prîmes l'habitude de nous appeler tous les jours. Après un silence aussi long, ça avait dû étonner la secrétaire. J'avais pas grand-chose à lui raconter. En fait, pour lui apporter un peu de fraîcheur, je lui parlais des progrès que faisait le petit nouveau, qu'il avait trouvé le moyen de m'envoyer, pour la logistique. Lui, de son côté, évitait de me parler trop précisément des catastrophes qui l'accablaient. Tous les jours, il y en avait. La liste, de plus en plus longue, je la connaissais. Il s'en doutait. Les informations circulaient sur les réseaux internes. Non, il prenait plutôt presque plaisir à me raconter toutes les tracasseries que cela impliquait pour lui, que ça soit avec les militaires, les clients, les assurances, et puis évidemment, toute la pression qu'il pouvait avoir de la compagnie. Il avait l'air de bien tenir le coup, et au fil des jours, la question que je lui avais posée finit par être oubliée. Moi aussi. Oublier cette histoire d'ange qui ne volait plus. En fait, nous étions presque deux amis qui faisions face à une crise. Lui là-haut, devant tout gérer. Moi en bas, essayant de le réconforter. Le Redust avait presque fini par sortir de notre esprit, tant nous nous étions habitués à toutes ces catastrophes, les unes derrière les autres, sans raison apparente. Combien de temps est-ce que cela aurait pu durer? C'est un petit peu comme au casino. On perd, alors on continue à jouer, tentant de nouveau sa chance pour se refaire, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en caleçon, à la fin de la soirée, sur le trottoir. Rares sont ceux qui savent s'arrêter. Je ne parle évidemment pas de ceux qui savent s'arrêter alors qu'ils gagnent. Là, je parle de perdre. La compagnie, visiblement, n'avait pas pris de décision. Et Denis non plus. Est-ce que lui pouvait prendre des décisions après tout? Lui remontait les informations. C'est la compagnie qui décidait. Et la vie continuait, avec toujours plus de catastrophes, tous les jours, toujours plus d'impact financier. La planète était tellement grande, Los Angeles comportait tellement d'entrepôts, des entrepôts tellement grands, il y avait tellement de mouvements, tellement de vaisseaux, tellement de containers. Peut-être après tout que tout cela ne représentait que quelques pourcents du chiffre d'affaires. C'était négligeable. Je ne parle évidemment pas des morts. Ça, de toute façon, ça ne rentrait même pas en ligne de compte. Plus tard, j'utiliserai ce terme, ensorcelé. Et Denis, finalement, me donna raison. Oui, nous étions ensorcelés. Alors que quelque chose était en train d'arriver, un engrenage fatal, les deux seuls qui avaient peut-être la compréhension de ce mécanisme, les deux seuls qui auraient pu à un moment peut-être faire quelque chose, regardaient, fascinés, les tours s'écrouler les unes après les autres, sans rien faire. Comme si effectivement, pour que la catastrophe aille à son terme, on nous empêchait de faire quelque chose. On nous voilait les yeux. Comment avons-nous pu être aveugles, sourds et surtout aussi totalement apathiques? Incroyable, a posteriori, quand on dresse le tableau global. Il fallait quelque chose pour nous réveiller. Et heureusement, cette chose a fini par arriver. C'est Denis qui m'a appelé. Ça m'a fait tout drôle. J'ai tout de suite senti monter l'inquiétude. Car d'habitude, c'est moi qui le contactais. C'était pas logique. Il aurait dû lui m'appeler quand il avait le temps. Mais, au contraire, je crois que ça l'amusait que je puisse l'appeler à peu près à n'importe quelle heure, qu'il soit obligé au milieu de ces réunions très importantes de dire « Excusez-moi ». Ça me flattait, mais ça devait surtout l'aider lui à montrer à tous les gens qui lui cassaient les pieds à longueur de journée qu'il y avait quelqu'un d'encore plus important. Ce matin-là, c'est lui qui m'a appelé pour me dire que les militaires avaient des questions à me poser et qu'ils allaient venir sur le D-177. De nouveau, le Redust entra dans nos esprits. De nouveau, j'eus peur de ce qu'il y avait caché sous un conteneur, quelque part, là-bas, au milieu de l'entrepôt. Eux venaient simplement me poser quelques questions sur l'accident qui était arrivé plusieurs mois auparavant. Quelqu'un, visiblement, avait fait l'histoire de ces catastrophes et avait découvert la première, peut-être celle qui avait tout déclenché, et souhaitait revenir aux sources pour avoir mon avis. Pas une bonne idée. J'avais peur que ça ramène vers moi les catastrophes. J'avais peur de craquer de nouveau si j'allais fouiner un petit peu, poser des questions. Enfin, moi, je ne serais pas seul. J'avais maintenant deux compagnons, on s'entendait bien, ils étaient jeunes, on avait intérêt à se serrer les coudes. Au moins de ce point de vue-là, je n'avais plus à combattre la solitude. Oui, la solitude. Parce qu'évidemment, la ligne illimitée avait été coupée. Plus question d'aller me promener 2 à 3 heures par jour dans Ubriel. Je sais pas ce que pourrait en penser Liamas, mais en tout cas, il n'était pas encore devenu citoyen. Il y a belle lurette que je ne pensais même plus à aller me promener dans les villes virtuelles en prévision de ma candidature. Enfin, je ne serais pas seul pour recevoir les militaires. Et de toute façon, l'accident était arrivé il y a tellement longtemps, il n'en restait plus aucune trace. Même s'ils avaient voulu trouver quoi que ce soit, depuis, des containers avaient été posés et déplacés à l'endroit où c'était arrivé. Attendons. Néanmoins, je n'étais guère serein, et de nouveau, toutes les nuits, les cauchemars reprenaient, à cause de leur aideuse. Des emmerdeurs. Voilà. Oh, je m'en doutais. Ils venaient fouiller un peu. Par contre, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'étais devenu suspect. Et ça remettait les choses en perspective. Évidemment, eux n'avaient pas connaissance de l'Eredost, et s'ils en avaient eu connaissance, peut-être que d'avoir à remplir un rapport avec ces histoires mystiques, bof, ils auraient préféré tourner autour d'un suspect et essayer de le faire arrêter. C'est à ce moment-là que le doute s'est vraiment immiscé dans mon esprit, cette histoire de Redust. Après tout, est-ce qu'effectivement ça n'était pas les éco-terroristes qui étaient derrière? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'engrenage infernal que l'on pouvait expliquer? Une personne qui manque, et du coup la logistique plus difficile à gérer, et donc plus d'incidents, et ainsi de suite. Bien sûr, il y avait les coïncidences, l'énorme météorite juste après la destruction d'un radar, ou ce genre de choses. Mais après tout, ça arrive. Ça arrive, et puis, un éco-terroriste, c'est pas forcément quelqu'un qui vient tuer un grand patron ou poser une bombe le long d'une usine. En repensant à Gus, qui m'avait renvoyé vers quelqu'un d'infréquentable, je me souvenais que aujourd'hui nous vivions dans un monde entièrement informatisé. La mise à jour buggée des robots, par exemple. Ça pouvait bien être un virus. Peut-être que derrière tout ça, il y avait un homme, ou un groupe d'hommes. Peut-être que le crépuscule de Los Angeles était inscrit dans le cycle de Yon et que mon interlocuteur s'était simplement frotté les mains que quelque chose arrive. Non, mais non, je divaguais. Je l'avais vu. J'avais vu l'œuf. Et ensuite, je l'avais vu éclore. Non, pas éclore. Je l'avais vu éclos. J'avais vu les restes. Me voilà devenu mystique. Me voilà en train de croire à quelque chose d'invisible, simplement parce qu'un bouquin a été écrit il y a 270 ans. Non, décidément, je ne tournais pas. C'est ces militaires qui me tournaient autour et qui me rendaient fou, alors que les choses auraient pu être toutes simples. Après tout, si j'oubliais cette espèce d'excroissance bizarre, je n'avais rien à me reprocher. Et simplement, il y avait eu un accident malheureux, un homme mort, ok, la première catastrophe d'une longue série. Mais je n'étais pas vraiment directement au cœur du cyclone au démarrage. Est-ce que j'essayais de me persuader pour mieux résister aux interrogatoires de ces deux imbéciles? Je ne savais pas. Je devenais fou. Leur départ fut une bénédiction. Impossible d'avoir la moindre idée de ce qu'ils pensaient ou de ce qu'ils allaient mettre dans leur rapport. Mais bon, en tout cas au moins, j'allais pouvoir me reposer et réfléchir un petit peu tranquillement à tout ça. Comme pour m'y aider, le hasard, le sort, la fatalité, comme on veut, prit la forme d'une énorme météorite qui cette fois-ci ne tomba pas sur l'entrepôt, mais sur la dalle d'atterrissage. C'était évidemment une catastrophe pour la compagnie, car cela voulait dire plus de 2 jours de travaux pour remplacer les dalles de béton, et donc 2 jours sans mouvement avec les containers que je gardais jalousement. 2 jours où je n'avais du coup rien d'autre à faire que de surveiller de loin les travaux à la fin, et au début surveiller l'arrivée des dalles de béton. De quoi réfléchir tranquillement. Pas sûr que Denis saisit rapidement la logique de ces 2 jours de calme où j'aurais pu avoir l'esprit un peu plus apaisé. Je me sentis obligé de lui reposer la question, mais de manière un peu plus insistante. Denis, est-ce que tu crois aux fantômes? En effet, la fois d'avant, il ne m'avait pas répondu. Mais là, brutalement, j'avais besoin de savoir. Est-ce qu'il n'y a que moi qui étais devenu fou? Nous étions deux à connaître cette histoire de Redust. Il m'importait de savoir si le deuxième y croyait, ou si, au moins, le fait d'y croire ou de ne pas y croire était un sujet auquel il réfléchissait, malgré les soucis et le travail qu'il avait vu s'accumuler sur sa tête à cause de cette histoire ou d'une autre. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Là encore, il esquiva. Sa réponse fut un retour à l'envoyeur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je fus alors obligé de lui expliquer la détresse dans laquelle j'étais. Est-ce que j'y croyais? Est-ce que j'y croyais pas? Est-ce qu'il s'agissait d'un complot des éco-terroristes? Est-ce que peut-être quelque chose existait que notre technologie ne pouvait expliquer et dont nous étions victimes? Je fus assez surpris. Il ne s'était pas posé la question. Oui, on lui avait raconté une histoire. Oui, elle était effrayante. Et oui, depuis, il avait eu tellement de travail, tellement de soucis, tellement de rapports, tellement de paperasseries, tellement de responsabilités, qu'il n'y avait pas réfléchi. En réalité, en en discutant, il se rendit compte qu'il attendait que ça se passe, qu'il espérait qu'à un moment tout se calme, qu'il pourrait clore le dossier et reprendre sa vie d'avant. C'est un peu comme si, cette deuxième fois, ma question lui avait ouvert les yeux. Non, ça ne se calmait pas. C'était même de pire en pire. Les problèmes étaient de plus en plus nombreux, et les impacts aussi. Et pourtant, personne ne faisait rien. Ni lui, ni la compagnie. Tout continuait comme avant, on gérait simplement les catastrophes, comme si c'était des procédures normales. Ensorcelé. Ces militaires imbéciles m'avaient amené à me poser les vraies questions. Puis, cet accident, sur ma zone de déchargement, m'avait amené à poser à Denis les vraies questions. Et ce fut le début de la fin. Il y eut plusieurs jours où, pour la première fois, quand j'appelais, il ne me prit pas. Et, le quatrième jour, de nouveau, au petit matin, c'est lui qui prit l'initiative et qui m'appela. L'information n'avait pas été encore diffusée sur le réseau interne. Un gigantesque tremblement de terre, dans la zone la plus dense au niveau des entrepôts, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Une catastrophe d'une ampleur qui dépassait de loin tout ce qui était arrivé jusque-là, même l'accident du vaisseau qui s'était écrasé. Sa décision avait été prise, et il tenait à ce que je sois le premier à être au courant. Loon, c'est la fin. Quelle qu'en soit la raison, effectivement, nous sommes arrivés au crépuscule de Los Angeles. Je fais évacuer, la compagnie fera mettre la planète en quarantaine. Je fus presque soulagé. Ils avaient gagné. Il, qui pouvait-il y avoir derrière ce il? Quelque part, j'avais fini par plus ou moins croire à le Red Hust. En tout cas, j'avais du mal à croire entièrement au fait que ça ne soit que les éco-terroristes. Un petit peu comme une espèce de superstition qui planait. Enfin voilà, ils avaient gagné. Soulagé, bizarrement pas par la décision, mais par l'espoir que, ayant gagné, les catastrophes allaient s'arrêter. Après tout, leur but était atteint. Nous allions partir et laisser la planète à ses anges. Eh bien, pas du tout. Les catastrophes continuèrent, qui rendirent encore plus difficile l'évacuation. Car évidemment, en parlant d'évacuation, on ne parlait pas des humains. La compagnie elle-même, déjà, n'avait que faire de nous. Mais il fallait surtout évacuer les containers. Et là, du point de vue logistique, c'était quelque chose pour lequel il n'y avait jamais eu de procédure. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie, car là, c'était sans arrêt les vaisseaux qui arrivaient vides, qui prenaient les containers et qui partaient. L'intérêt du point de vue logistique, c'est qu'on n'avait pas à se poser la question de quels containers. On les prenait tous, les uns après les autres. C'était long. C'était presque déprimant de voir le vide gagner au fur et à mesure dans mon entrepôt. Et pendant ce temps, toujours, les catastrophes de plus en plus nombreuses. Les entrepôts se vidaient les uns après les autres, et les humains commençaient à partir aussi. D'abord les marchandises dangereuses, les marchandises lourdes, les marchandises à forte valeur, et puis, bien évidemment, j'aurais dû y penser. J'étais étonné de voir que mes départs étaient moins nombreux, comme si j'allais faire partie des derniers à être évacués. Forcément. Là encore, Denis avait eu le bras long. Je devais forcément être le dernier à évacuer, car au moment du départ du dernier conteneur, celui dont nous avions seulement tous les deux le numéro, il y aurait quelque chose en dessous que personne ne devait voir. Je serai donc, avec mes deux collègues de la logistique, les trois derniers humains à quitter Los Angeles, après avoir vu partir les derniers conteneurs, y compris celui-là. Informatiquement, Denis m'avait dit qu'il y aurait un accident et que ce dernier serait perdu. J'étais rassuré. Tout ça aurait pu se dérouler simplement. Mais voilà, j'ai voulu faire cet enregistrement pour que vous sachiez, si jamais tout ceci est effacé de la mémoire, ce qui s'est réellement passé. Je ne parle pas de la cause, je parle des faits. Et vous laisse seul juge de savoir si les The Red Hust ont repris Los Angeles ou si ce sont les éco-terroristes. Mais un dernier événement m'a poussé à poser les faits si jamais un jour quelqu'un veut se pencher dessus. Il se faisait appeler Gaio, le masculin de Gaïa. À un moment, je me suis demandé si c'est pas lui avec qui j'avais discuté suite à mon échange avec Gus. Bien sûr, la planète allait être mise en quarantaine. Et donc, encore plus qu'avant, plus personne ne pouvait venir y vivre. On avait vaguement cherché les communautés, on ne les avait pas trouvées. Je partirai avec mes deux collègues, les trois derniers humains. Mais Gaio avait voulu, allez savoir pourquoi, fouler le sol de cette planète, voir les anges et forcer le blocus. Il l'avait attrapé et, après un jugement expéditif, avait déclaré sa peine de mort. Croyant l'humilier, mais en réalité réalisant son vœu ultime, ils avaient décidé de ne pas l'exécuter sur la planète et de l'enterrer là, mais plutôt d'abandonner son corps dans l'espace. Ce qui lui avait fait grand plaisir, car il ne voulait pas souiller un peu plus Los Angeles. C'était le jour de mon départ. C'est la dernière information que j'ai eue sur le réseau interne. La dernière information que j'ai eue sur Los Angeles, car derrière, je n'ai plus jamais voulu en entendre parler. À quelle distance est-ce qu'un Red Hust peut agir? Le vaisseau militaire qu'il avait projeté dans l'espace n'est jamais revenu au bon port.